La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au début du mois de décembre 1532 à Bologne, au lendemain d'une campagne victorieuse que Charles Quint a menée devant Vienne contre le sultan de Constantinople. L'empereur est venu renouveler un traité d'alliance défensif avec le pape Clément VII et la grande majorité des principautés et des républiques d'Italie. Mais pour l'heure, son attention est portée sur tout autre chose. Il est venu se faire portraiturer par le maître Tiziano Vecellio, dit le Titien. D'habitude, le fils de Philippe le Beau trouve ses portraits tellement hideux que, dit-il, quiconque le voit pour la première fois en personne est agréablement surpris par son apparence. Cette fois, il sera tellement ébahi par le résultat qu'il nommera le Titien peintre officiel de la cour et l'anoblira. À cette époque, Charles Quint a 32 ans, il lui reste 26 ans de vie. C'est à ces jeunes années que nous allons nous intéresser, les années de formation de l'un des plus puissants monarques de tous les temps.
Vous et moi ensemble, il n'y a plus aucun pays au monde que nous ne puissions conquérir.
Pour évoquer donc ce monarque, Charles Quint, Lindsay Armstrong est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraît chez Flammarion qui s'appelle Charles Quint, l'indomptable. Charles Quint qui est né le 24 février 1500 à Gand, alors en Pays-Bas des Habsbourg. Mais à vrai dire, dites-vous dans votre ouvrage, Lindsay Armstrong, son histoire commence 6 ans avant sa naissance, quand le roi de France, Charles VIII, proclame haut et fort ses droits, c'est-à-dire ceux des Valois, sur le royaume de Naples. Il traverse les Alpes en 1494, à la tête d'une armée de 18 000 cavaliers, 22 000 fantassins, une centaine de pièces d'artillerie. Et là, que se passe-t-il ?
Eh bien, il se passe que on voit donc la France, la principale puissance européenne, représenter à peu près la moitié de la population européenne, pour se faire une idée. Donc, ouais. Une très grande puissance, qui est restée jusqu'alors dans ses frontières. On est avec Louis XI, l'État se peaufine, se complète. Et ses successeurs, qui sont Charles VIII, et puis le cousin de Charles VIII, qui s'appelle Louis XII, et puis un neveu de Louis XII, qui s'appelle François Ier, tous commencent une politique d'expansion européenne du Royaume de France, de la grande puissance française. Et l'idée est de prendre le contrôle de l'Italie. L'Italie, très intéressante parce que elle est à la pointe même des technologies. Par exemple, beaucoup de choses de l'imprimerie sont nées en Italie. C'est un exemple, c'est un grand fabricant d'armes, etc. Mais surtout, c'est le siège de la papauté. Donc, on est dans une Europe encore très religieuse, très chrétienne, encore qu'apparaît Luther déjà depuis une quinzaine d'années. Et qui contrôle l'Italie ? Contrôle la papauté et a une influence décisive sur l'Europe. Donc, cette sortie des frontières de la France inquiète tous les autres. Et tous les autres, c'est d'abord les rois catholiques, la célèbre Isabelle la catholique et son mari Ferdinand. Et d'autre part, l'empereur d'Allemagne, Maximilien, qui est le grand-père de Charles Quint, et qui est, lui, il n'est pas très puissant parce qu'il est à la tête d'un empire allemand qui est divisé en des centaines de petites principautés qui se contrastent les unes les autres. En tout cas, l'alliance entre les rois catholiques d'Espagne et Maximilien d'Autriche est à l'origine de la naissance de Charles Quint. Autrement dit, si les Français n'avaient pas envahi l'Italie, il serait jamais né, on serait pas là pour en parler.
Et cette alliance, elle va se traduire par un double mariage. Donc Philippe le Beau, qui est le fils unique de Maximilien, va épouser Juana, qu'on connaît bien.
Là, vous faites une petite erreur. Philippe le Beau est le papa.
Le papa, ouais.
Oui, c'est ça. Il vient, non, vous
Mais il est le fils de Maximilien. Il est donc Philippe le Beau, le fils de Maximilien, qui sera le père. Donc, Philippe sera le père de Charles Quint, époux Jeanne la Folle. Hein. Et puis, le Juan donc, va épouser la sœur de Philippe le Beau. Donc, ce sont des mariages, des alliances qui vont contrer l'influence des Français. Philippe le Beau a 18 ans lorsque il épouse Jeanne la Folle. C'est un mariage qui est une leçon de géopolitique. Dites-vous.
C'est une leçon de géopolitique. Philippe le Beau est un prince typiquement de ce pays, la Belgique. Ouais. Autrefois, c'était les pays d'en bas. C'est un bel homme, jeune, plein de vie, qui aime bien bambocher, qui aime bien les femmes, et qui finalement ne sortirait pas très volontiers de ses frontières, d'autant plus que ses sujets ne souhaitent pas qu'on fasse des guerres. Ils veulent surtout bien vivre, faire du commerce et vivre en paix. Mais son père, donc Maximilien, le force à accepter ce mariage avec la dynastie espagnole. Et Philippe le Beau est absorbé, il est aspiré dans la grande politique européenne.
La nuit du... C'est un mariage qui va être, en tout cas au tout début, qui sera relativement heureux. On dit que c'est un mariage assez fougueux. 10 enfants en 6 ans, dont Charles Quint, donc 2 garçons et 4 filles. La nuit du 24 février 1500, dans la grande salle de la Hofterwahl à Gand, Jeanne accouche donc d'un garçon. Il est 3 heures du matin. La sage-femme annonce que le nouveau-né tient une pendiloche comme jamais on en avait mise au four, ce qui est assez parlant comme image. Donc, et très vite, les rois catholiques, donc Isabelle et Fernando d'Aragon réclame la présence du petit près d'eux.
Réclame la présence de Charles petit Quint, Charles, qui est encore dans son berceau, parce que ils ont perdu d'abord leur fils aîné, qui était l'héritier des trônes, puis ils ont perdu leur fille mariée à un roi d'Espagne, du Portugal, et surtout le fils de cette union avec le Portugal. Qui fait que l'héritier est désormais à la fois Jeanne la Folle et puis son fils Charles.
Et ça, Jeanne la Folle, donc qui a traversé l'histoire par cette caractéristique, ça n'est pas anecdotique. Politiquement, le désordre mental de la mère de Charles Quint va peser énormément.
Va peser énormément parce que d'abord, les Espagnols, et par ça il faut entendre les Castillans, les Aragonais, c'est encore des royaumes séparés, bien que sous la même tête, c'est des couronnes séparées. Parce que l'Espagne se méfie de ce jeune garçon qui, à la cour duquel se sont réfugiés beaucoup d'exilés. Et se méfie de cet homme qui vient du Nord avec des conseillers qui ne sont pas espagnols et qui, en fait, font beaucoup d'erreurs en termes de nomination. Ils se privilégient, ils font plus de place aux Espagnols. Et donc, le règne en Espagne de Charles Quint commence très mal.
Ouais. En clair, les rois catholiques ne veulent pas voir Philippe le Beau monter sur le trône.
Ne veulent pas voir
Philippe le Beau monter sur le trône. Ils veulent passer le relais directement à Charles Quint.
À Charles Quint et surtout à sa mère. Ouais, ouais. Il y a tout un problème constant. Tant que Juana, la loque, Jeanne la Folle est en vie, c'est-à-dire qu'elle a une très longue vie, elle ne meurt qu'en 55, c'est-à-dire 3 ans avant son fils. Tant qu'elle est en vie, elle est reine, bien que dérangée mentalement. Mais on dit, si jamais elle retrouve les esprits, c'est elle la reine, et ce n'est pas Charles Quint.
Ouais. On évoque donc les jeunes années de formation de Charles Quint avec vous, Lindsay Armstrong.
Jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30 sur la première.
Juan la Loca de Vicente Aranda. C'est un film donc, qui évoque le destin de Jeanne la Folle, la mère de Charles Quint. Alors les choses vont prendre une tournure inattendue puisque Philippe le Beau décède en septembre 1506. Il n'a que 28 ans, Philippe le Beau, donc le père de Charles Quint. Deux semaines plus tard, son épouse Jeanne met au monde leur sixième enfant. C'est Catalina qu'elle va garder près d'elle. C'est aussi un destin très triste que cette petite princesse. Donc le petit Charles est orphelin de père et de fait de mère. Il a 7 ans. On le décrit comme... il n'a jamais beaucoup parlé de son enfance, Charles Quint, mais on le décrit quoi? Comme un adolescent assez mélancolique, Lynn Armstrong?
Oui, on le décrit comme un enfant avec un physique fragile, mélancolique, effectivement. Ouais. Il y a de quoi. Je crois être orphelin, même si on est duc ou grand-duc ou roi, je pas, n'est pas facile pour quiconque. Donc, il est mélancolique. Il est mauvais élève. On essaye de lui apprendre les langues. Ouais. Et ça marche pas. Il est mauvais en latin. Mais tout de même, quelque chose lui entrait dans le cabochon, si ouais. j'ose dire. Et puis, il est pris en main par un homme d'État remarquable qui s'appelle Guillaume de Chièvre, mm-hmm. très philo-français, qui le forme à gouverner.
Ouais.
Jusqu'à ce que Maximilien d'Autriche, son grand-père, décide de l'émanciper à 15 ans.
Voilà. Voilà. On reviendra à cette émancipation. Guillaume de Chièvre, donc, personnage très très important. Et puis Marguerite d'Autriche, qui est la tante, la sœur de Philippe le Beau.
Voilà, vous touchez quelque chose de profond. Tous les enfants de Juan la Loca et de Philippe le Beau appelleront Marguerite d'Autriche tante et mère.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont coupés de leur mère, qui vit récluse en Espagne, à Tordesillas, au fin fond de la vieille Castille.
Recluse, enfermée.
Par son père, mm-hmm. Qui est très irrité par elle. Je pense, c'est difficile de dire si elle était vraiment folle ou profondément dépressive.
Ouais.
Moi, je penche plutôt pour le profondément dépressif. Très amoureuse de son mari, physiquement,
ouais.
et aussi...
Elle va conserver le cercueil de son mari pendant très très longtemps auprès d'elle.
Alors, elle va conserver le cercueil pendant très longtemps, sans l'amener à Grenade, où il y a les tombes royales. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut plus d'aucun homme, après Philippe le Beau.
Ouais.
Et elle s'est dit, tant que j'ai le cercueil avec moi... On ne peut pas me marier à un roi anglais ou à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une fidélité à cet homme qui l'a maltraité, il faut dire, Philippe le Beau, qui est très émouvante et qui touche beaucoup d'écrivains encore aujourd'hui.
C'est un personnage qui mériterait sans doute, Jeanne la Folle, une émission pour elle toute seule. Revenons tout près de chez nous, puisque l'éducation des princes donc de Charles Quint se passe à quelques kilomètres de Bruxelles, à Malines. On nomme des précepteurs, bien sûr, directeurs de conscience, etc. Vous évoquiez tout à l'heure Guillaume de Chièvre. Il y a un autre personnage qui est important, c'est Adrienne Florence d'Utrecht. Alors, qui est-il ?
Qui à ce moment-là, il est doyen déjà... de l'université de Louvain, très reconnu comme un grand penseur catholique. Erasme en disait beaucoup de bien. Et donc, c'est lui que Marguerite d'Autriche va chercher et lui confie l'éducation religieuse de Charles Quint. Donc, tout ça, c'est très lié à un mouvement... religieux né aux Pays-Bas, mm-hmm. la Devotio Moderna, qui inspirera Luther. Donc il est intéressant de noter que Luther et Charles Quint avaient beaucoup de points communs en termes de religion.
Ouais.
Ce qui les séparait, c'était la politique.
Mm-hmm. Voilà. On reviendra à Luther tout à l'heure. Ouais. Ce Florence d'Utrecht, dites-vous, Adrien Florence d'Utrecht, il va lui apprendre, enfin lui inculquer une forme d'humilité, ce qui n'est pas le cas des autres souverains.
Oui, donc c'est le message, c'est que chacun de nous, et c'est en ça que on est proche de Luther, doit vivre les tribulations du Christ chaque jour, toute la journée. C'est-à-dire être constamment imprégné par la divinité et par l'humilité. Et en sachant qu'on est de passage dans ce monde, Et d'ailleurs, une des choses que Charles Quint dira à la fin de sa vie, il sait très bien que tout ce qu'il a fait va être défait en quelques jours par la nouvelle génération. Donc l'humilité est un trait constant du passage sur Terre de Charles Quint, du passage dans la politique de l'Europe, dans nos destins, etc.
Il va apprendre aussi, bien sûr, au cours de ses jeunes années, le protocole, la cour. C'est amusant, il y a des pages amusantes sur le fait qu'il faut se laver les mains avant, au vu de tout le monde, pour qu'on ait confiance. Oui. Essayer s'essuyer la bouche avant de boire au même verre qu'un autre, ne pas s'essuyer à la nappe, mais avec un petit mouchoir de Venise, etc. Alors, il va apprendre, à la veille de sa majorité, l'essentiel, hein, c'est-à-dire penser plus loin et plus large que les autres, s'en tenir toujours à des idées fortes, ne jamais se lancer tête basse dans l'aventure, mais plutôt pousser l'adversaire à la faute, se servir des hommes selon leurs qualités, ne jamais croire aux promesses d'amitié. Ce qu'il distingue aussi, c'est le sens de l'honneur. Et donc le 5 janvier 1515, lors d'une cérémonie officielle au palais du Codenberg à Bruxelles, l'empereur Maximilien, son grand-père, émancipe Charles Quint, il a 14 ou 15 ans. Pourquoi cette émancipation si tôt ?
Pourquoi cette émancipation si tôt ? D'abord parce que Maximilien se sentait malade. Et il va d'ailleurs pas survivre longtemps. Il va survivre 4 ans. Se sentait malade et il voulait surtout préparer Charles Quint à lui succéder à la tête de l'Empire. La succession, c'est pas dynastique, ça se fait par élection, par les grands électeurs. C'est une élection démocratique, si vous voulez. Et ce n'est pas par le sang qu'on devient empereur. Donc, il voulait le lancer. Il avait aussi besoin d'argent. Et il était conscient aussi que les peuples de la Belgique, des Pays-Bas, souhaitaient être gouvernés par quelqu'un né chez eux et pas par des princes, des représentants allemands ou autres de l'empereur. Donc, il était temps de le mettre en piste.
Et au même moment, à peu près au même moment, le 25 janvier 1515, François Ier est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. François Ier qui sera le grand rival de Charles Quint. C'est un tout autre personnage. Ce n'est pas ce personnage humble que l'on voit en Charles Quint.
Non, tout à fait. Je lisais il y a quelques jours une biographie de François Ier due à Max Gallo.
Oui.
Et en parcourant les pages, on sent un monsieur qui dit toujours « moi, le roi, c'est moi qui décide, machin, etc. » ce n'est pas le caractère de Charles Quint, dont quelqu'un d'autre a dit « c'était pas un génie, mais son génie était de savoir qu'il ne l'était pas et qu'il savait s'entourer de conseillers du premier ordre. Il a eu des conseillers exceptionnels. »
C'est un personnage effectivement qui fait polémique ces derniers mois en France. François Ier était-il, oui ou non, ce grand roi ?
Oui.
Alors en tous les cas, ils vont se livrer 4 guerres, je pense. Mais Charles Quint va lui tendre la main à plusieurs reprises à François Ier.
Va lui tendre la main après avoir voulu l'écraser et après avoir voulu démembrer le royaume de France en 2 ou 3 parties. Une partie pour les Anglais, une partie pour le roi de France qui resterait, et une partie pour le célèbre connétable de Bourbon, qui, après avoir été dépouillé de ses terres par François Ier, par la mère de François Ier, Louise de Savoie, passe dans le camp de Charles Quint. Ça, c'était le premier dessein de réduire la France à une portion plus congrue pour qu'elle soit moins dangereuse. Après la bataille de Pavie, qui est en 25, et où François Ier, au terme d'une cavalcade un peu folle, est pris prisonnier, Charles Quint change de politique. Il sauve la France, tout ce qu'il veut c'est la Bourgogne, et il petit à petit, il lancera la main à François Ier. Qui cependant, lui, ne l'acceptera pas de sitôt. Il faudra encore 4 guerres, comme vous le disiez, pour qu'il y arrive.
Le 14 mars 1516, lors d'une cérémonie dans la collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles, Charles est proclamé avec sa mère, Jeanne la Folle, roi des Espagnes. 3 ans plus tard, c'est la mort de Maximilien, donc son grand-père, le 12 janvier 1519, qui ouvre la succession à la couronne impériale. Plusieurs candidats, Henri VIII, le roi d'Angleterre, le duc de Saxe et bien sûr François Ier, c'est Charles qui est choisi, qui est sacré empereur à Aix-la-Chapelle en octobre 1520, il a 20 ans. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi on le choisit, Louis ?
Pourquoi on a choisi Charles Quint ? Bon, semblait-il, la raison essentielle est que c'est celui qui a payé le plus d'argent. Mmh. Et deuxièmement, parce qu'il était financé par les banquiers allemands. Il était financé par les banquiers allemands parce que la France faisait peur, mmh. hein, pour les mêmes raisons qu'on disait tout à l'heure. Il avait aussi un petit, je sais pas si c'est un huitième ou quart de sang allemand. Donc bon, ça aussi va peut-être jouer. Mais c'est surtout l'argent. Et son grand-père lui avait écrit, Charles, sache qu'on n'arrive à rien si on dépense mais pas beaucoup d'argent dans la poche des gens.
Et vous rappelez à Lindsay Armstrong que Charles Quint n'était pas le candidat de Rome et d'ailleurs aucun des six papes auxquels il aura affaire durant son règne ne l'épaulera tout au long des 35 ans de règne.
Il y avait enfin le duel judiciaire. On y recourait surtout pour attaquer les serments. Que je n'aime pas ça. Lorsque les deux gentilshommes avaient accepté le jugement de Dieu, il s'ensuivait un duel sans merci où le vaincu, s'il était déjà mort, subissait la peine des capitaux. C'est la fromagerie, ça.
Tous les jours, 13h30, 14h30. Un jour dans l'histoire.
Voilà, une version plus souriante aussi. Hein. François Ier en 1937 avec Fernandel. Lindsay Armstrong est avec nous pour évoquer les jeunes années de Charles Quint. L'indomptable, c'est le titre de votre ouvrage, Lindsay Armstrong. Il sera donc le premier et le dernier empereur des deux mondes, hein, puisqu'il a l'annexion à la couronne des conquêtes de vastes territoires qui couvrent aujourd'hui le Mexique, l'Amérique centrale, le sud-est des États-Unis. Il va essayer d'imposer à l'Europe et au-delà une unité religieuse, une monarchie universelle chrétienne. Charles Quint est le défenseur d'une église rénovée dans ses mœurs et pourtant, et c'est assez paradoxal, c'est qu'il va, en même temps, il est pour une église rénovée et il va s'affronter à Luther, Martin Luther, qui va être, comme François Ier, une sorte de clou dans les chaussures de Charles Quint.
Tout le monde a un clou. Ouais. Les papes que vous signaliez tout à l'heure, Luther et surtout les princes protestants, Soliman les Magnifiques, ouais. François Ier. Donc, on assiste à une alliance hétérogène et illogique entre un roi catholique, le très chrétien, on l'appelait, les protestants, les papes et les ottomans, tous contre Charles Quint. Alors, il y a là une belle question. Pourquoi ils sont tous contre Charles Quint? C'est que c'est un grand homme qui les éclipse tous. C'est ma vision des choses. Mais peut-être on peut approfondir ça.
Mais il y aura quand même la... Par exemple, Martin Luther, est-ce qu'il a cette vision de Charles Quint? Est-ce qu'il se dit « je dois m'affronter à Charles Quint puisque c'est un grand homme » Ils vont se rencontrer. Hein.
Ils se rencontrent une fois seulement, ouais. Qui est à la première diète que préside le nouvel empereur Charles Quint, qui a lieu à Worms et qui a été un événement majeur, puisque Charles Quint invite Luther avec un sauf-conduit qui respecte scrupuleusement à se défendre, à présenter ses thèses, et où la rupture, disons, idéologique, religieuse entre Charles Quint et Luther se consomme. Cela étant dit, Luther a souvent dit des choses très positives sur l'empereur, surtout sur son rôle de défenseur de la chrétienté dans son ensemble, de sa lutte contre l'expansionnisme musulman, ottoman plutôt. C'est ambigu. Aussi, il faut voir que Luther, au début de son évangélisation, si vous voulez, il souhaite que se développent des communautés de croyants, protestants, si vous voulez. Ensuite, il y a beaucoup d'événements assez tragiques, la révolte des paysans, il y a des schismes qui se provoquent, ont lieu tout de suite dans le luthéranisme. Et Luther passe la main au prince. Il est chef religieux et séculaire. Donc, après les premières années, Charles Quint a surtout affaire avec les princes protestants. Mmh. et beaucoup moins avec Luther, qui petit à petit se retire en fait, de la scène politique.
Et toutes ces passions religieuses vont enflammer les Européens et diviser le continent. C'est un rêve d'Europe unie qui va se fracasser, hein, le rêve de Charles Quint. La maladie va le rattraper, une goutte très très invalidante. Il abdique le 22 octobre 1555 à Bruxelles, devant les états généraux, dans la grande salle du palais du Codenberg, là où 40 ans plus tôt il était proclamé duc de Bourgogne. Il se retire dans le monastère de Yuste, dans le sud-ouest de l'Espagne. Il va y mener pendant 3 ans la vie la plus triste qui ne se soit jamais vue, dit l'un de ses proches, Lindsay Armstrong. Pourquoi cette vie triste?
Alors, c'est l'un de ses proches qui le dit. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai dans l'esprit de Charles Quint. Parce que Charles Quint, donc, se dépouille de tout, de tous ses honneurs, de toutes ses charges. Et il s'est dit, je suis vieux, je suis malade, je ne suis plus en mesure de servir. Et donc, il se retire. Il se retire dans une maison d'une extrême modestie. Hein. Il faut le souligner. Ce n'est pas quelqu'un qui dilapidait l'argent public.
Il a quand même 50 serviteurs autour de lui.
Oui, mais enfin, oui, parce qu'il aime beaucoup la bouffe, comme vous savez. Et une des choses marrantes, c'est qu'il a amené avec lui, à Yuste, un brasseur flamand, par exemple. aussi pour son linge, il avait des préférences. Donc, il était très méticuleux sur tous ces aspects domestiques de sa vie. Il s'est retiré à Yuste, c'est un bel endroit sur une vallée verte. Et par exemple, il s'adonne à la pêche. Est-ce que vous imaginez, vous, un empereur qui a commandé toute l'Europe, qui est là avec sa canne et qui attend d'attraper une truite? Eh bien, il y a là un trait merveilleux de cet homme qui est modeste, qui est réaliste parce qu'il sait qu'on va tout défaire, que tout passe. Ouais. Chaque génération renouvelle tout et croit tout renouveler. Et c'est très touchant. C'est un homme vraiment touchant.
Qui meurt à Yuste donc le 21 septembre 1558 à l'âge de 58 ans. Les suites de la malaria, c'est ça?
Il semblerait que oui. Ça, il a dû être piqué par un moustique qui n'a pas été identifié. Ouais. Si vous voulez.
En tous les cas, on peut approfondir et il faut approfondir la connaissance de Charles Quint. Nous, on s'est intéressé aux premières années de formation de ce monarque. Charles Quint, l'indomptable. Vous allez beaucoup plus loin encore, Lindsay Armstrong, dans cet ouvrage qui paraît chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.